Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a réussi son pari d'obtenir un second mandat dès le premier tour. Bagassi Koura et notre correspondant Lamine Traoré nous en diront plus. L'élection présidentielle aura lieu le 11 avril 2021, a annoncé le gouvernement du Bénin, un pays longtemps vu comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, mais qui, selon l'opposition, a pris récemment un virage autoritaire. L'opposition et la société civile dénoncent, je cite, un scrutin verrouillé à l'avance par l'actuel président Patrice Talon, qui pourtant s'est engagé à faire en sorte que les opposants participent au scrutin. En cause, une nouvelle disposition de la loi électorale qui impose aux candidats d'être parrainés par 16 maires ou députés. Lors des législatives d'avril 2019, rappelle l'AFP, aucun des partis d'opposition n'avait été autorisé à présenter de liste. Et aux municipales d'avril 2020, boycottées par une partie des opposants, seuls 6 maires dissidents ont été élus. Bahreïn va ouvrir un consulat à Laayoune, au Sahara occidental, a annoncé jeudi un communiqué du cabinet royal marocain dans un contexte de tensions très fortes dans cette ancienne colonie espagnole. Le Front Polisario a récemment décrété l'état de guerre, mettant fin à un cessez-le-feu vieux de 30 ans en réaction à une opération militaire marocaine dans une zone tampon de l'extrême sud pour rétablir le trafic routier coupé par des indépendantistes sahraouis. L'Organisation mondiale de la santé a exhorté jeudi les pays africains à améliorer rapidement leur capacité à vacciner leur population contre le coronavirus, prévenant que le continent était loin d'être prêt à une vaccination massive. Alors que la quête d'un vaccin s'est accélérée depuis le début du mois, à la suite d'annonces prometteuses de plusieurs fabricants, l'OMS a appelé l'Afrique à intensifier ses préparatifs, l'estimant dans un communiqué près de seulement à 33%. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir demandé à l'autorité de réglementation sanitaire des médicaments d'examiner le vaccin mis au point par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford en vue de sa commercialisation. Jeudi, le directeur général d'AstraZeneca avait annoncé que le vaccin allait être soumis à une étude supplémentaire après des critiques concernant ses premiers résultats, sans que cela ne retarde, selon lui, son approbation par les régulateurs européens et britanniques. Le président américain Donald Trump a lui déclaré jeudi que la livraison du vaccin contre le coronavirus commencerait la semaine prochaine et la suivante, livraison aux travailleurs en première ligne face à la crise sanitaire, aux personnels soignants et aux personnes âgées. Monsieur Trump parlait lors d'une visioconférence avec des soldats américains déployés à l'étranger à l'occasion du Thanksgiving. Les États-Unis viennent d'enregistrer plus de 2400 morts du coronavirus en 24 heures, un plus haut depuis 6 mois, pour un total de plus de 270 000 morts. 262 000 morts. Et l'Allemagne a franchi vendredi le seuil du million de cas, considéré comme un des bons élèves européens de la gestion de l'épidémie. L'Allemagne a été frappée de plein fouet par la deuxième vague de coronavirus. On y déplore 15 586 décès. Par ailleurs, tout en répétant qu'il pourrait ne pas reconnaître sa propre défaite, le président Trump a déclaré jeudi qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège électoral américain confirmait l'élection du démocrate Joe Biden à la présidence. Ce collège électoral doit se réunir le 14 décembre et la cérémonie d'investiture est prévue le 20 janvier. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington, D.C. suite de nos informations, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a réussi son pari d'obtenir un second mandat dès le premier tour. À l'annonce de sa réélection jeudi, il a tendu la main à l'opposition, dont plusieurs candidats sont venus dans la soirée le féliciter. Bagassi Koura.
Selon le président de la commission électorale, Newton Ahmed Barry, M. Kabore l'emporte dès le premier tour avec 57,87% des suffrages et du Kombouégo, dont le CDP de l'ex-président Blaise Compaoré avait été exclu en 2015, arrive deuxième avec 15,48% des voix devant Zéphirin Diabré, 12,46%. Considéré comme le chef de file de l'opposition jusque-là. Selon les chiffres donnés par la CENI, le corps électoral a été ramené de 6 490 000 à 5 893 000 en raison de la non-ouverture de quelques 1 300 bureaux de vote à cause de l'insécurité liée au groupe djihadiste. Quelques 800 autres bureaux qui auraient dû ouvrir sont restés fermés. Le président Kabore a promis une concertation permanente pour construire un Burkina Faso meilleur lors d'une intervention quelques minutes après l'annonce de sa réélection. Dans une élection, il y a un vainqueur et des gens qui ont perdu. Mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations, a-t-il dit. Hier soir, plusieurs de ses adversaires se sont rendus à son QG pour le féliciter. Parmi eux, Gilbert Noël Ouédraogo, Ablasse Ouédraogo ou encore Tayirou Barry, celui-là même qui avait lu un peu plus tôt une déclaration de l'opposition prenant acte des résultats du scrutin et disant se réserver tous les droits de faire recours. Les compilations des votes des législatives sont toujours en cours et les résultats devraient être publiés dans les jours à venir.
En Gambie, le mandat de la commission Vérité et Réconciliation a été prolongé de 6 mois pour lui permettre de terminer son travail. Elle a été mise en place pour enquêter sur les droits de l'homme sous l'ex-président Yahya Jammeh. Abdourahmane Dia.
Les responsables de la commission Vérité et Réconciliation avaient saisi le président Adama Barrow d'une demande de prolongation pour terminer les auditions, arguant notamment de la suspension de ses travaux pendant une période à cause du coronavirus. Le président Barrow a donc accédé à leur demande. La commission doit remettre son rapport final début juin 2021. La commission Vérité et Réconciliation avait démarré ses auditions en janvier 2019. Elle a été instituée par le président Barrow pour enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme commises dans son pays par l'ancien dirigeant Yahya Jammeh, forcé de quitter le pouvoir en 2017 après avoir perdu les élections. La commission a entendu plusieurs individus, dont d'ex-responsables civils ou militaires, d'anciens membres d'un escadron de la mort personnelle de l'ex-président et une ancienne reine de beauté. La commission pourra, au terme de ses travaux, recommander des poursuites ou des réparations. Elle ne peut en revanche pas prononcer des condamnations.
Un agent de la CIA a été tué au cours d'une opération en Somalie. Un incident qui devrait relancer le débat aux États-Unis sur la présence d'Américains dans ce pays de la Corne de l'Afrique ravagé par la guerre. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Selon le New York Times, qui a révélé l'incident, l'agent de la CIA, qui n'a pas été identifié, appartenait à la branche paramilitaire de l'agence de renseignement américaine dite Centre des activités spéciales. Le quotidien a précisé qu'il s'agit d'un ancien militaire de l'unité d'élite des Navy SEALs qui a été tué. Selon CNN, l'incident s'est produit le week-end dernier et l'agent de la CIA a été blessé au cours de l'opération avant de mourir des suites de ses blessures. Ce décès intervient alors que le président Donald Trump envisagerait, selon certains médias, de rappeler les 700 soldats des forces spéciales américaines qui forment et conseillent l'armée somalienne face aux djihadistes Shabab affiliés à Al-Qaïda. L'armée américaine a multiplié les attaques de drones contre les Shabab depuis 2017 et déployé plusieurs centaines de soldats des forces spéciales pour former et assister l'armée somalienne. Début septembre, 5 soldats somaliens ont été tués et un conseiller militaire américain blessé en Somalie, dans un attentat revendiqué par les Shabab. En janvier, des Shabab avaient attaqué une base militaire américano-kenyane à Lamu, dans le sud-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie, tuant 3 Américains.
Au Nigeria, se sont ouverts jeudi les procès en appel de 2 hommes qui avaient été condamnés par des tribunaux islamiques pour blasphème. L'affaire fait grand bruit dans le pays, les organisations soutenant que la Constitution garantit la liberté d'expression. Mohamedou Humfa nous en dit plus.
Les juges de la Cour suprême de l'État de Kano ont commencé à examiner les affaires jeudi. Ils doivent se prononcer sur les cas de deux hommes, Yahya Sharif Aminou et Omar Farouk. Le premier est un chanteur de 22 ans. Le 10 août, un tribunal islamique l'avait condamné à la peine de mort par pendaison pour avoir insulté le prophète dans une chanson qu'il a partagée sur WhatsApp. Le second est un garçon de 13 ans. Il avait écopé d'une peine de 10 ans de prison pour avoir tenu des propos grossiers à l'égard d'Allah lors d'une dispute avec un ami. Maître Kola Alapini, avocat des deux accusés, a plaidé pour leur innocence pure et simple. Selon lui, les condamnations étaient incompatibles avec la constitution nigériane qui garantit la liberté d'expression. Toujours selon lui, lorsqu'une loi est en conflit avec la constitution, c'est la constitution qui prévaut. Les deux affaires sont mises en délibéré et les juges rendront leur verdict à une date ultérieure. L'affaire suscite des passions à Kano, un état majoritairement musulman. Des manifestants avaient même incendié le domicile familial du chanteur Yahya Sharif Aminou. Les organisations des droits de l'homme s'en indignent et soulèvent une nouvelle fois le débat sur l'incompatibilité entre la charia et les lois fédérales. Un débat houleux dans un pays où la charia est en vigueur dans 12 États sur les 36 que compte la fédération.
La Minute Éco, John Linden.
Au Togo, l'autorité des régulations des communications électroniques et des postes annonce l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre de Togocel pour désagrément et dysfonctionnement grave sur les services T-Money, son service de transfert d'argent, et pour défaut d'information à l'endroit des consommateurs en violation des clauses de leur cahier de charges qui oblige les opérateurs d'assurer la disponibilité permanente des services autorisés et d'informer les clients en cas de perturbation. Togocel est le leader du marché de la téléphonie mobile au Togo. Le chiffre d'affaires de la société CFAO Motors Côte d'Ivoire, filiale de la multinationale du même nom, a connu une baisse de 6,616 milliards de francs CFA au premier semestre 2020 comparé à la même période de 2019. C'est ce qu'ont annoncé les dirigeants de l'entreprise à Abidjan. Cette contre-performance, selon Financial Afrique, est due à la baisse de 9,2% du marché de l'automobile en Côte d'Ivoire, avec 5241 véhicules vendus contre 6545 au premier semestre 2019. L'Angola a annoncé son intention de céder des parts dans la société pétrolière nationale Sonangol et dans la société diamantifère Endiama d'ici la fin de 2021. Selon la ministre des Finances, le but de la vente est de lever des fonds et relancer l'économie angolaise très affaiblie. L'opération entre dans le cadre d'un plan de vente des 30 entreprises, d'un programme qui s'étendra jusqu'en 2022. L'Angola est engagée à renégocier sa dette avec ses principaux créanciers, notamment avec le Fonds monétaire international.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. C'est une première dans l'histoire. La finale de la Ligue des champions de la CAF oppose ce soir à 19h temps universel au Caire deux clubs d'un même pays. Le Zamalek et Al Ahly d'Égypte. Al Ahly a remporté 8 fois le titre de la Ligue des champions et 42 fois celui de champion d'Égypte. Le Zamalek a empoché le titre africain 5 fois à égalité avec le club congolais du tout-puissant Mazembe et compte 12 titres égyptiens. Cette rivalité historique entre Al Ahly et Zamalek s'est encore exacerbée après leur rencontre de Supercoupe d'Égypte en septembre 2019, remportée par Al Ahly 3-2. Le match avait été suivi d'incidents. Lundi, le ministre égyptien des Sports, Ashraf Sobhi, a appelé à une rencontre pour dire non au fanatisme au stade international du Caire. L'arbitre algérien Mustapha Gorbal a été désigné pour officier la rencontre qui va se jouer à huis clos. Reynald Pedros est devenu le sélectionneur de l'équipe féminine du Maroc, selon le journal L'Équipe. Ancien entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais, Reynald Pedros, 49 ans, avait mis sa carrière d'entraîneur entre parenthèses depuis juin 2019. Basketball, les éliminatoires de l'Afrobasket 2021 commencent aujourd'hui à Kigali. La République démocratique du Congo entre en compétition ce vendredi face à la République centrafricaine. La sélection congolaise tient à faire une bonne entame d'entrée. De Kinshasa, la correspondance de Valdo Simo Yamba.
Face à la République centrafricaine, c'est vendredi 27 novembre à l'entame de la première fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket Kigali 2021. La RDC tient à sa réputation, confie le sélectionneur adjoint Charlie Bouzangou.
On essaie d'avoir une équipe qui est assez costaud et capable de défendre les couleurs du Congo.
D'où l'objectif de mettre en place une bonne philosophie des jeux en commun accord avec le nouvel entraîneur, le Norvégien Mathias Eikhoff, explique Bouzangou.
Déjà, il fallait essayer d'avoir une certaine philosophie des jeux. Chaque joueur vient d'un continent, d'un club différent. Avoir un sujet où on va vraiment tous se voir ensemble. C'est cela qu'on a essayé de s'installer aujourd'hui. Quelques philosophies de jeu et des systèmes.
Après deux jours de mise en commun, l'heure de vérité a sonné ce vendredi face à la République centrafricaine. Valdo Simo Yamba, Kinshasa, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le Burkina Faso, où le président Roch Marc Christian Kabore a été réélu avec 57,87% des voix. Il est suivi d'Edi Komboigo, de l'ex-majorité, et de Jeffirin Diabré, selon les résultats provisoires de la commission électorale. Des observateurs affirment qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, tout en reconnaissant que ces élections se sont tenues dans un contexte sécuritaire difficile. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le président de la commission électorale annonçant la réélection de Roch Kabore. Il remporte la présidentielle avec 57,87%, ce qui signifie qu'il est réélu dès le premier tour. Le coup KO, comme chantaient ses partisans, est donc confirmé. Simon Compaoré est le président du MPP, parti au pouvoir.
Notre candidat, qui vient d'être élu provisoirement, va devenir, après le dernier mot qui revient au Conseil constitutionnel, le président de tous les Burkina Faso. Les perdants comme des gagnants.
J'étais présumé. Perdante.
Monique Kam, la seule femme candidate sur 13, n'a remporté que 0,53% des voix.
En tant que femme, l'opinion a constaté avec moi la mobilisation des hommes et des femmes à mes côtés pendant cette campagne. Des jeunes nous ont soutenus, des hommes nous ont soutenus, la population burkinabé, des burkinabés nous ont accordé leur voix. Et qu'est-ce qu'on retient de cette participation? C'est que l'image de la femme a été relevée davantage.
Cyprien Nanema est le représentant du candidat Ambroise Farama.
Nous avons un regret parce que nous étions le candidat du changement, le candidat de la rupture. Et malheureusement, nous constatons encore qu'il y a des difficultés tant au niveau des gouvernants qu'au niveau des populations. Au niveau des gouvernants, nous n'avons pas constaté de rupture, c'est la continuité. Et quant aux populations, le changement de mentalité que nous attendons tant n'est pas encore au rendez-vous.
Pour les observateurs, même s'il y a eu des dysfonctionnements et autres irrégularités, il faut se féliciter de l'organisation des scrutins dans un pays en proie au terrorisme. Maître Alidou Ouédraogo est le président de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'organisation des élections, qui a déployé plus de 3000 observateurs.
Il faut s'en féliciter parce que réussir des élections dans un contexte aussi difficile, marqué par l'insécurité et la COVID-19, ce n'est pas facile. Je vous demande à regarder ailleurs, autour de nous et plus loin, parce que les élections sont toujours difficiles. Et quand on arrive à les organiser sans une attaque terroriste, sans une augmentation de la COVID-19, il faut remercier Dieu et s'en féliciter.
Le Conseil constitutionnel devra valider ses résultats dans un délai de 15 jours. Les candidats ont 7 jours pour déposer les éventuels recours devant ce conseil. La réaction de l'opposition ne devrait pas tarder. Avant les résultats, elle avait dénoncé des cas de fraude et menacé de ne pas reconnaître les résultats en cas de victoire du président sortant dès le premier tour. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Prévu du 27 au 29 novembre à N'Djamena, au Tchad, le forum citoyen convoqué par les forces vives composées de mouvements syndicats et citoyens, d'artistes engagés, d'organisations de la société civile et de partis politiques de l'opposition démocratique a été interdit par le ministre en charge de la sécurité publique, Mahamat Tahir Orozi. Pour lui, la situation sanitaire ne permet pas un rassemblement de grande envergure. L'opposant, Saleh Kebzabo, un des organisateurs du Forum citoyen, n'est pas convaincu par de tels arguments. Au micro de notre correspondant André Kotmadjingar, écoutons M. Saleh Kebzabo.
Le Tchad est un pays antidémocratique. Vous avez eu des preuves il y a 2-3 semaines avec l'état de siège imposé au siège de partis politiques et au domicile des leaders politiques. C'est du jamais vu, sans aucun motif. Sur une réunion, les organisateurs ont saisi le ministre par écrit pour l'informer. Il répond par une interdiction. Il prend prétexte sur la COVID-19, mais nous allons avoir une réunion de 150 personnes dans une salle qui prend 600 personnes. Donc la distanciation sera respectée. Alors qu'au forum du MPS, ils étaient 600 sans distanciation et parfois sans masque.
Monsieur le Président, en vous écoutant parler, le motif avancé par le ministre en charge de la sécurité publique pour interdire cette rencontre ne vous convainc pas.
La COVID-19 n'est pas là uniquement pour l'opposition. La COVID-19 est là aussi pour le gouvernement, pour le président de la République, pour la majorité. Comment voulez-vous que ce qu'il dit soit convaincant? La réalité, c'est que le pouvoir est dictatorial par essence. C'est un pouvoir qui refuse l'exercice des libertés garanties par la Constitution. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 5 mois, c'est-à-dire jusqu'en mars. Et ce sont les prémices de ce qui nous attend pour la campagne électorale qui est en train de se mettre en place actuellement. Et quand vous y ajoutez aussi le couvre-feu, ça veut dire que tous les ingrédients sont mis en place pour que les partis politiques n'aient pas droit à leurs activités normales préélectorales. Vous entendez parler de ça bientôt, je vous le promets.
Est-ce que vous avez demandé l'autorisation aux autorités sanitaires puisque, selon l'arrêté, l'avis de la coordination des ripostes sanitaires n'étant pas requis?
Les activités des partis politiques sont libres par la loi. Que ce soit des réunions, que ce soit les meetings, que ce soit les marches, tout ça, on n'a pas besoin d'autorisation. Si on veut le faire, une information à donner à l'autorité, c'est tout. Une information a été donnée, c'est ce que dit la loi.
Les résolutions issues du deuxième forum a été adoptée en Conseil des ministres en projet de loi constitutionnelle qui est sur la table de l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Alors même si ce forum arrive à avoir lieu, c'est pour quelle finalité?
Non, il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Notre forum est un forum citoyen qui permet à des citoyens d'horizons divers pour se pencher sur la situation du pays qui en a besoin avec des arguments et des diagnostics vrais et des solutions non moins vraies, ce qui n'est pas le cas de ce que le MPS a fait. Ils ont fait 4 jours de forum pour nous sortir que ce qui intéressait le plus le président Déby, à savoir la vice-présidence de la République. Pour ce projet, comme vous le dites, à l'Assemblée nationale, il va être adopté puisqu'ils ont la majorité, mais des demandes d'amendements sont déposées, dont les miens, où on démontre par A plus B qu'un vice-président de la République nommé par décret ne peut pas assurer la vacance du pouvoir.
Monsieur le Président, votre forum a interdit, que vous reste-t-il à faire?
Bon, vous savez, il y a la technologie du monde moderne qu'il ne faut pas ignorer. C'est pour ça que c'est un pouvoir qui est bête et méchant. Il ignore qu'il y a ce qu'on appelle les réunions virtuelles. On va déployer cela pour tenir notre réunion. Et le moment venu, vous le verrez.
Au micro de notre correspondant André Kotmadjingar, Monsieur Saleh Kebzabo.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Niger, les obsèques de l'ancien président Mamadou Tandja se sont déroulées ce jeudi. Décédé mardi à l'âge de 82 ans, M. Tandja a dirigé le pays de 1999 à 2010. un hommage national lui a été rendu avant son enterrement dans son village natal de Menesoroa, dans l'est du pays. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Allahu Akbar.
C'est au palais présidentiel que les obsèques se sont déroulées en présence du chef de l'État Issoufou Mahamadou, des présidents des institutions et des responsables civils et militaires du pays. Honneur militaire dû à son rang, puis lecture de l'oraison funèbre par l'ancien premier ministre Maman Oumarou.
Le peuple te reste reconnaissant. C'est à ce peuple nigérien éploré que tu manques aujourd'hui. Avec ton rappel à Dieu, c'est tout le pays pour qui tu restes un patriote convaincu et un dirigeant visionnaire qui devient orphelin.
Parmi les personnalités présentes à la cérémonie, l'ancien président de la République, Mahamane Ousmane.
Le roi qui a tout donné pour ce pays, qui a fait le maximum qu'il puisse faire, un don de soi, avec beaucoup d'abnégation et de sacrifices, que ce homme repose en paix.
Mais aussi des compagnons et des camarades de lutte du président Tanja Mamadou.
Que Dieu ait son âme et qu'il repose en paix.
C'est un homme qui a su associer dans l'histoire de notre jeune république, jeune pays, la sagesse du président Diori, la rigueur du général Koundé. Il a su associer ces deux valeurs de ces deux grands anciens qui l'ont précédé et lui-même éduqué dans la pure tradition de nos valeurs, il a dû associer tout cela pour se mettre au service du Niger et rien que du Niger.
Le corps a ensuite été transporté par l'avion présidentiel dans son village natal de Menesoroa, dans la région de Diffa, où il repose désormais. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Adieu, Baba Tanja. Repose en paix.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that?
I'm in the trenches, relax. Can you not?
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.